Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à la web radio du lycée français de Séville. Aujourd'hui, nous sommes de retour avec la classe de seconde qui va interviewer un grand auteur français qui est à Séville en raison de la traduction en espagnol de son livre Paradis perdu. Éric Emmanuel Schmitt, bonjour et merci d'être parmi nous.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous accepté de rencontrer les élèves du lycée français international de Séville ?
Ah, non, mais c'est une bonne question parce qu'en France, je vais très rarement dans les lycées et les collèges. Pourtant, on me le demande parce qu'on lit beaucoup mes textes là-bas, mais tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Et par contre, quand je suis à l'étranger, et quand je suis une journée à Séville ou une journée à Madrid ou une journée à Barcelone, alors là, j'aime beaucoup caler dans ma journée une rencontre parce que j'aime beaucoup, peut-être qu'aujourd'hui je vais changer d'avis, mais j'aime beaucoup vous rencontrer, j'aime beaucoup échanger avec vous, entendre vos questions, vos réactions. Mais la vérité, c'est qu'en temps normal, je n'ai pas le temps.
Merci de votre réponse. Notre classe de seconde a lu et travaillé votre pièce de théâtre Le Visiteur, qui sera le thème principal de cette interview. Nous allons commencer par des questions sur votre métier d'écrivain avec Carmen, Alejandra et Selena.
Quand est né en vous le plaisir d'écrire ?
Oh, je crois que j'écris comme je respire et que j'ai toujours écrit des histoires. Quand j'étais enfant, je rentrais de l'école, j'écrivais des histoires déjà. Je croyais que tout le monde était comme ça d'ailleurs. Et puis en fait, j'ai découvert avec le temps, non, c'était plutôt les gens qui finalement étaient écrivains qui faisaient ça. Et donc voilà, c'était une évidence pour ma famille, c'était une évidence pour les instituteurs, les institutrices et les professeurs que j'étais écrivain, sauf pour moi, parce que ça m'était tellement naturel. En fait, j'écris comme un pommier fait des pommes. Que là, quand vous me demandez, c'est comme si vous demandiez à un pommier, pourquoi vous faites des pommes et pas des poires ou des bananes ? Je ne sais pas ce que répondrait le pommier et je ne sais pas quoi vous répondre.
Quelle est pour vous l'étape la plus difficile dans l'écriture ? Est-ce trouver l'inspiration, peut-être trouver la bonne manière d'exprimer ses idées ou travailler avec l'éditeur ?
Alors, c'est ce que vous avez dit en deuxième position. Trouver le moyen de raconter quelque chose qui fasse du sens. Vous avez lu Le Visiteur, donc vous avez vu, Le Visiteur, ça traite un problème philosophique, c'est est-ce que la présence du mal sur cette terre doit nous empêcher de croire en Dieu, ou montre que Dieu est un monstre, ou que Dieu n'existe pas. Hein, donc c'est une réflexion sur le mal. La réflexion sur le mal, elle existe depuis que les hommes existent. À l'intérieur de toutes les religions, il y a une réflexion sur le mal, à l'intérieur de toutes les philosophies, et à l'intérieur même de toute une société, même totalement athée, il y a une vraie réflexion sur le mal. Alors après, la difficulté, c'est de trouver une anecdote, une histoire qui va se déployer et qui va permettre d'avoir cette réflexion. Et ça, c'est très très difficile. Il y a des sujets sur lesquels je n'ai toujours pas trouvé la façon de raconter quelque chose. Après, l'inspiration, c'est-à-dire le point de départ, oui, moi, la vie m'inspire. Les gens m'inspirent. Je les regarde, je les écoute, je les observe, je les ressens. Et après, le travail avec l'éditeur, alors là, moi, je vais vous dire, mais ça ne vaut que pour moi, on publie mes textes comme je les ai écrits, point à la ligne. C'est-à-dire que je pense être un véritable écrivain, donc on n'a pas à me refaire travailler. Il est vrai que parfois il y a des gens qui arrivent avec des livres qui sont mal faits. Alors si on pense que les livres sont intéressants, il y a ce qu'on appelle un directeur littéraire qui va les aider à refaire. Si carrément le livre est mauvais mais qu'on pense qu'il faut le publier quand même, à ce moment-là on fait travailler un autre écrivain dessous, anonymement. En France, on appelle ça un nègre. Maintenant, on n'a plus le droit d'employer ce mot, bien sûr, mais en anglais, c'est a ghost writer, hein, un écrivain fantôme. Au XVIIIe siècle, on appelait ça un valet d'écriture. Un valet d'écriture qui va réécrire. Donc voilà, moi je livre mes textes. À la limite, on me dit que j'ai fait une faute d'orthographe et que ici je pourrais peut-être rajouter une virgule. Et puis c'est tout.
Merci beaucoup. Quelle a été votre démarche pour écrire cette pièce de théâtre Le Visiteur ? Vous êtes-vous plongé dans l'œuvre de Freud ? Vous êtes-vous beaucoup documenté ? Quelles ressources avez-vous utilisées ?
Alors j'ai toujours été passionné par l'œuvre de Freud, bien avant d'écrire cette pièce. c'est-à-dire dès l'âge de 17-18 ans, je me suis mis à lire Freud. Et puis bon, après, j'ai fait des études de philosophie. Donc forcément, on fait beaucoup de psychologie. Donc dans la psychologie, de la psychanalyse, bien sûr. Et donc j'ai lu quand même plusieurs fois, de façon très très attentive et concernée, l'œuvre de Sigmund Freud et d'autres psychanalystes. Et c'est parce que j'étais passionné par son œuvre qu'un jour, je me suis dit que je pouvais en faire le personnage principal d'une de mes pièces. Vous voyez, j'ai pas décidé, je vais faire une pièce où il y a Freud et puis maintenant je vais travailler Freud. C'est parce que j'avais toute cette culture de Freud que ça m'a permis de penser qu'il était peut-être le bon personnage pour raconter ce que j'avais à raconter. Pourquoi le bon personnage? Parce que c'est un athée. Un athée nouveau, je dirais, dans l'histoire de l'athéisme. Il y a eu d'autres athées au cours des siècles avec des arguments qui étaient les leurs. Lui, il a des arguments nouveaux par rapport à l'athéisme qui viennent de sa pratique psychanalytique et de sa théorie psychanalytique. Il nous dit finalement, Dieu, c'est une projection du Père. Ça, personne ne l'avait dit avant. Dieu, c'est une projection du Père. Donc quand on se rend compte que notre Père terrestre a des défauts, est faillible, n'a pas toujours raison, n'est qu'un homme, finalement, eh bien, on ne veut pas perdre cette figure du Père Tout-Puissant qu'on avait dans notre enfance, alors du coup, on va le mettre dans le ciel, faute de l'avoir sur terre. Et donc, cette espèce de projection qu'on fait pour rester un enfant avec un Père formidable. Et donc, ça, c'est une théorie nouvelle de l'athéisme. Donc, je me suis dit, c'est bien, je vais prendre un athée vraiment du XXe siècle. Et puis, dans Freud, il y avait ce moment de trouble que j'ai choisi de représenter dans Le Visiteur, c'est-à-dire que ce moment où lui, qui n'est absolument pas religieux, eh bien, il est tout d'un coup poursuivi parce qu'il est juif, alors qu'il n'a aucune pratique de la religion juive et de la spiritualité juive, et il est rattrapé par l'histoire. Et tout d'un coup, il va être obligé de s'exiler. Et tout d'un coup, il va se sentir fraternel avec des êtres qui sont extrêmement différents de lui, les juifs, d'autres juifs que lui. Donc ça, c'est humainement intéressant à raconter. Et puis, voilà, après, quand j'ai trouvé dans son journal intime juste une ligne, Anna à la Gestapo. Cette nuit que j'ai choisi d'illustrer, Anna à la Gestapo. Il n'a rien dit de plus. Parce qu'il a rien dit de plus, je pouvais tout dire. Il aurait détaillé la nuit, j'aurais pas pu écrire ma pièce. Je suis parti de cette phrase, Anna à la Gestapo, je me suis dit, cette nuit-là, il a dû souffrir. Et cette nuit-là, il a peut-être tout remis en question, y compris son athéisme. Et c'est comme ça que j'ai écrit la pièce.
Merci Eric-Emmanuel Schmitt pour vos réponses. Nous passons maintenant à des questions sur votre pièce de théâtre, Le Visiteur. Avec Sarah, Carlos, Clara, Irénée, Juan, Carmen et Riam.
Dans la mesure où le personnage de Freud apparaît dans votre livre La part de l'autre et dans Le Visiteur, qu'est-ce qui vous fascine chez Freud ?
Ce qui me fascine chez Freud, c'est qu'il nous a donné un moyen de lire la réalité différent. Pour moi, les grands intellectuels, c'est ceux qui nous donnent des clés pour déchiffrer la réalité et des clés qui enrichissent la réalité. Et Freud fait pour moi partie des grandes clés, parce que qu'est-ce qu'il nous apprend à ne pas nous en tenir aux apparences. Quelqu'un fait un lapsus, se trompe de mot, bon, tout le monde, avant on disait c'est de la fatigue, Freud dit non, l'inconscient est en train de dire quelque chose à travers le lapsus. On fait un acte manqué, on oublie son cartable chez quelqu'un. Ça veut dire quelque chose, nous dit Freud. On exprime peut-être un désir de revenir chez la personne ou de ne pas partir en laissant une partie de nos affaires. Et puis, les rêves, bien sûr. Avant, quand on interprétait les rêves, on les interprétait toujours par rapport au futur. De façon assez naïve, on disait, les rêves sont des prémonitions du futur. Puis il y avait des livres comme ça, des rêves. On disait, vous avez rêvé que du blé poussait dans les champs. Ça veut dire qu'il va y avoir un enfant dans votre famille. Enfin, des conneries comme ça. Et Freud, de façon totalement différente, dit non. Les rêves expriment des tensions intérieures que nous avons, des désirs refoulés que nous avons, etc. Et donc, une lecture aussi d'une partie de notre vie qui est la vie psychique pendant le rêve. Alors c'est quand même c'est génial de nous offrir autant de clés de lecture, d'enrichir finalement notre expérience du monde. Puis après, il y a toutes les théories freudiennes par rapport à la sexualité, avec lesquelles je suis un peu moins d'accord, mais qui sont quand même intéressantes. Donc, je ne vais pas vous dire que je suis d'accord avec Freud, mais je suis passionné par Freud. Passionné parce que, comme tous les grands génies, il nous donne à voir quelque chose que nous ne verrions pas sans lui. Un peintre, c'est pareil. Un grand peintre, il nous donne à voir quelque chose que nous ne verrions pas sans lui. Un grand écrivain, il nous permet d'explorer la réalité aussi dans des complexités que nous n'aurions pas aperçues sans lui. Donc, oui, c'est très enrichissant l'œuvre de Freud. Mais je ne suis pas freudien. Je ne pense pas que c'est la vérité. Je pense que c'est intéressant, passionnant. La vérité, je suis incapable de savoir ce que c'est.
Est-ce que Freud est une allégorie de la raison pour vous? Cette pièce de théâtre, Le Visiteur, est-elle alors une critique de la raison humaine ou une critique de la croyance plutôt?
Ni l'un ni l'autre, ou les deux. C'est-à-dire que, pour moi, l'intelligence, c'est de toujours s'interroger. La bêtise, c'est de croire qu'on sait. C'est dit dès le début de la pièce. Freud dit, les enfants sont spontanément intelligents, ils posent des questions. Anna lui dit, et les adultes? Et il répond, les adultes sont spontanément idiots, ils répondent. Je trouve que je suis toujours effaré, surpris, choqué, quand des gens disent, je sais, sur des questions où on ne peut pas savoir. Parce qu'il y a beaucoup de questions dans la vie sur lesquelles on ne peut pas savoir. On peut savoir que 2 et 2 font 4, mais par exemple savoir si Dieu existe, bah ça serait facile. Hein, si on pouvait prouver l'existence de Dieu par un raisonnement mathématique, par un raisonnement philosophique ou par une observation scientifique, la question de Dieu se poserait plus. Quoi. Et il n'y aurait même plus besoin d'avoir la foi. Vous n'avez pas la foi dans les mathématiques. 2 et 2 font 4, c'est pas une affaire de foi. C'est une affaire de raison. Mais quand je dis ça, je dis l'existence de Dieu ne se prouve pas, je dirais aussi l'inexistence de Dieu ne se prouve pas non plus. Hein. C'est-à-dire il y a des arguments en faveur de Dieu et des arguments en défaveur de Dieu. Donc la raison n'arrive pas à décider. Alors moi, ce que j'essaye toujours de dénoncer dans tous mes livres, c'est ceux qui prétendent savoir quand on ne peut pas savoir. Donc c'est maintenir l'esprit en interrogation et en alerte. Ne pas combler l'ignorance par un pseudo-savoir. Ne pas combler l'incertitude par des certitudes erronées. Voyez. Alors certains appellent ça douter. Non, moi j'appelle pas ça douter. Parce que douter c'est négatif. J'appelle ça s'interroger. Et je crois que nous sommes tous condamnés à rester interrogatifs sur des grandes questions. Au fond, les questions les plus intéressantes n'ont pas de réponse certaine. Elles ont des réponses sur le mode du peut-être. Et le peut-être, c'est ça la philosophie. Peut-être que. Si je vous dis où est mon manteau, dans ma chambre d'hôtel. Bon, c'est une question à laquelle j'ai une réponse. Ce n'est pas vraiment une question intéressante. Tandis que si je dis est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe. Là, je suis dans le domaine du peut-être. Si je dis est-ce que j'ai raison de me comporter comme ceci ou comme cela, c'est discutable. Je suis dans le domaine du peut-être. Voilà. Donc en fait, moi j'incite mon lecteur, ma lectrice à accepter des champs d'incertitude, des zones de peut-être qui font partie de nos vies et surtout pas à prétendre savoir. Vous voyez par exemple, à la question est-ce que Dieu existe? Moi je vais vous répondre, je ne sais pas, mais je crois que oui. C'est-à-dire, scientifiquement, rationnellement, je ne sais pas et personne ne sait, mais au niveau du cœur, je crois que oui. Vous posez la même question à mon ami le philosophe André Comte-Sponville, il vous répondra, je ne sais pas, mais je crois que non. Donc, moi je suis un agnostique croyant. Agnostique parce que agnosko en grec ça veut dire je ne sais pas. Donc je suis un agnostique qui dit je ne sais pas, croyant parce que je dis, mais je crois que oui. Mon ami Comte-Sponville est un agnostique athée. Il dit je ne sais pas, mais je crois que non. Puis vous auriez posé la question à ma mère, elle aurait répondu je ne sais pas et je m'en fous. Agnostique indifférent. Les trois sont honnêtes. Parce que les trois disent « je ne sais pas ». Voilà. Le malhonnête, c'est celui qui dit « je sais ». Je sais que Dieu n'existe pas. Ou je sais que Dieu existe. Et je sais que Dieu existe et il m'a dit qu'il fallait aller faire exploser une bombe au supermarché. Voilà. Les gens qui prétendent savoir dans un champ où on ne peut pas savoir, ce sont des intégristes, ce sont des fanatiques. Alors il y a des fanatiques de Dieu, mais il y a des fanatiques de l'athéisme aussi, hein, Staline. Et de grands dictateurs ont été aussi des fanatiques de l'athéisme. Donc voilà, il faut absolument guetter celui qui prétend savoir là où on ne peut pas savoir.
Dans la scène 8 de votre pièce, Freud considère l'athée comme une personne courageuse et digne.
Oui.
Selon vous, comment Freud considère-t-il le croyant? C'est-à-dire, est-ce qu'il le voit comme une personne lâche?
trouve que Freud, ce que je fais dire à Freud dans la pièce à ce moment-là, sur le courage de l'athée, je crois qu'effectivement c'est très courageux d'être athée, parce que c'est penser qu'il n'y a pas de sens, qu'il n'y a pas d'ordre à tout ça autre que le hasard, c'est extrêmement courageux, parce qu'il n'y a pas de recours, il n'y a pas de secours. Vous voyez, moi qui suis croyant, c'est plus confortable. Oui, parce que je ne sais rien de plus que celui qui ne croit pas, mais j'habite le mystère avec confiance. Vous voyez, alors que l'incroyant, l'athée, habite le mystère avec angoisse. Donc, je ne dirais pas que c'est lâche de croire, mais c'est plus confortable. Oui, et c'est une autre façon d'être dans l'inconnu. Donc voilà, j'ai plus d'admiration pour la belle tenue et la belle conduite de quelqu'un qui est athée que pour la bonne tenue et la bonne conduite de quelqu'un qui est croyant, dont moi.
Vous avez écrit à propos de l'identité du visiteur. Ma réponse n'a pas plus de valeur que celle d'un autre. Cependant, qui est le visiteur selon vous ?
Qui est le visiteur ? Ah, mais ça, je veux pas le dire, moi. Je veux que ce soit vous qui décidiez. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, moi, ce que je veux, c'est maintenir l'interrogation, c'est-à-dire l'aspect philosophique. J'ai envie de stimuler votre cerveau philosophique. Et donc, restez toujours... Et donc, c'est la discussion que vous aurez à l'issue du spectacle ou à l'issue de la lecture du livre qui est mon but. Mon but, c'est que vous discutiez, vous voyez, et que vous disiez, moi, j'aurais plutôt tendance à croire ça, moi, je crois pas, parce que... C'est ça, mon but. En fait, mon but, c'est le débat, vous voyez. C'est le débat, c'est l'échange, c'est l'interrogation, c'est que des esprits intelligents et pas d'accord se rencontrent. Après, ce que je pense moi, je vous l'ai dit, ce que je pense moi, ce que je crois plutôt moi, mais ça n'a pas d'importance, ça n'engage que moi. Et ma pièce, c'est pas une pièce de croyant, c'est une pièce de philosophe. Donc voilà, moi je veux maintenir l'esprit philosophique.
J'imagine le personnage de l'inconnu comme une forme humaine sans visage. J'aimerais donc savoir comment pourrait être joué le personnage du visiteur selon vous.
Très bonne question. Alors d'abord, je vais vous dire une chose. Quand j'écris, je ne vois rien. J'écris un peu comme un aveugle. C'est-à-dire, je ressens des énergies, l'énergie de mes personnages. Je ressens l'électricité qu'il peut y avoir sur le plateau, sur la scène. Et j'entends les voix. Donc j'écris vraiment comme un aveugle. C'est pour ça que je ne mets généralement pas en scène mes pièces et que je préfère que d'autres les mettent en pièces. J'ai fait des films comme réalisateur, mais c'est pas pareil. Mais au théâtre, je mets pas en scène. Et je n'en sais rien. Quel visage à l'inconnu. Ce qui compte, c'est que l'acteur ne soit jamais là où on l'attend. Il faut un acteur surprenant. Parce que, en fait, ce personnage existe dans la tête de Freud. Et quand vous avez remarqué dans la pièce, quand Freud se met à croire, le visiteur lui dit « Walter Oberseit, il y a un fou qui s'est échappé, etc. » Et quand Freud cesse de croire, à ce moment-là, le visiteur dit quelque chose qui permet de penser que peut-être il serait Dieu. Donc, à chaque fois, il est un aiguillon, une épine dans les certitudes de Freud pour l'empêcher d'avoir des certitudes, pour maintenir ce que j'appelle l'esprit philosophique, c'est-à-dire l'interrogation. Donc voilà, il faut un acteur qui soit surprenant, qui soit espiègle, qui soit inventif, qui soit continuellement fascinant parce que on se dit mais qu'est-ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est un rôle qui est en fait non psychologique. Autant l'acteur qui joue Freud doit vraiment jouer un homme d'un certain âge, avec cette intelligence-là, avec cette fatigue, avec cette maladie, avec cette exaspération devant la situation du monde, avec ce chagrin et cette inquiétude pour sa fille qui a été arrêtée par la Gestapo, lui, il doit jouer psychologique. Et le visiteur doit jouer non psychologique, comme justement un miroir inversé. Pouf, 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 chaque fois l'inverse. Donc, vous voyez, c'est plus un tempérament qu'un physique.
Merci beaucoup.
Pourquoi avez-vous imaginé Freud et Anna ironique face aux nazis ?
Ah, au début de la pièce, c'est l'ironie juive. C'est une caractéristique de la judéité, c'est-à-dire cette ironie qui consiste à... qui peut même être une ironie par rapport à Dieu, une ironie par rapport au malheur, et une ironie par rapport à la violence et par rapport aux puissants. Pour moi, c'était vraiment marquer leur caractère juif. Et j'adore l'ironie. en plus. Je trouve que c'est quand même... C'est une manière de se battre quand on sait qu'on a perdu, quoi. Mais de continuer à se battre. Mais ça, c'est très français, hein. Aussi, pour un Français, non, ça veut jamais dire non. L'autre jour, moi, j'étais dans l'avion, là, pour venir ici, hier, un vol Vueling. Oui, c'est Iberia low cost, c'est ça. Et on m'a interdit d'aller, j'étais au premier rang, on m'a interdit d'aller aux toilettes avant. Ah, ben, ça a duré 10 minutes. Parce que j'ai dit non, non, ça veut pas dire non. Et alors les gens riaient à côté, ils disaient « Vous êtes bien français, vous ?» Ben oui, parce que pour un français, non, c'est pas non. Et voilà, on n'arrête jamais. C'est aussi pour ça qu'on croit à la politique. Hein. Parce que si on n'y croit pas, on accepte tout, on est fataliste, etc. Donc, je me retrouve un peu quand même aussi dans cet esprit-là qui consiste à dire « Non, je refuse que ça soit comme ça ». Donc, il y a le refus, mais chez Freud et chez Anna, il y a l'ironie. Et puis, cette ironie, elle permet de montrer aussi le statut intellectuel des personnages. Je veux dire, ils sont quand même... Ils sont pas premier degré, quoi. Ils sont pas dans l'émotion. Ils sont déjà... au-delà de l'émotion. Ça veut dire la capacité d'intellectualiser et de dépasser leurs émotions. Et ça, du coup, ça les situe au niveau intellectuel et même au niveau social, entre guillemets.
Est-ce le fait qu'il soit psychanalyste qui le rend plus ironique ?
Ah, ça, je m'étais jamais posé la question. Je pense que le fait d'être psychanalyste provoque... Sinon l'ironie, du moins la distance. C'est vrai que quand on est habitué à travailler sur le psychisme humain, il y a tout de suite une distance par rapport aux réactions des autres et aux interventions des autres. Ça c'est certain, ça doit aider. Et surtout quand on est psychanalyste, ça veut dire qu'on a été psychanalysé soi-même deux fois. Hein, puisque ça fait partie de la condition pour devenir psychanalyste. Ça veut dire qu'on se connaît, non seulement on reconnaît dans l'autre des comportements, mais on se connaît dans nos réactions par rapport au comportement de l'autre, et donc ça fait quand même une double distance. Donc sans doute vous avez raison, ça facilite l'ironie.
Est-ce que le souvenir de Freud assis par terre à l'âge de 5 ans dans la cuisine est un souvenir de Freud ou votre souvenir personnel? Et de manière générale, avez-vous intégré un peu de vous dans cette œuvre?
Bien vu. Oui, c'est un souvenir à moi. Bien sûr. Je pense qu'on a tous une sorte de souvenir comme ça du moment où on a pris conscience qu'on existait. Et voilà. C'était pas exactement ça. Moi, c'était, j'avais reçu une voiture rouge à pédale. Et dans ma voiture rouge à pédale, j'ai pris conscience que j'existais. Bon, donc j'ai un peu transformé mon souvenir et j'ai fait ce souvenir-là pour Freud. On s'en rend pas compte quand on écrit, on sait pas ce qu'on met de soi. Et c'est à la fin souvent, en relisant ou a posteriori, qu'on se rend compte qu'on a mis plein d'éléments personnels, mais transposés. Hein. De toute façon, qu'est-ce que c'est l'imagination ? L'imagination, c'est du recyclage de la mémoire. C'est rien d'autre, l'imagination. Alors, il y a des gens qui recyclent mal, ils n'ont aucune imagination, pourtant ils ont beaucoup de mémoire. Et puis, il y a des machines à recycler. Moi, je suis une machine à recycler. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu, bouf, je le transforme immédiatement en histoire et ça intègre ce que j'écris.
Merci Eric Emmanuel Schmitt pour vos réponses. Nous terminons cette interview par des questions plus générales sur l'ensemble de vos œuvres, avec Émile, Marco et moi-même Samuel. Votre objectif en tant qu'écrivain est-il de faire réfléchir les lecteurs sur des sujets philosophiques ou de leur faire ressentir des émotions?
Ah, bonne question. Les deux, absolument les deux. Parce que je pense que la vie intellectuelle est autant faite de réflexion que d'émotion. Par exemple, c'est parfois une émotion qui va vous permettre d'accéder à certaines idées, parce que vous avez été ému. C'est-à-dire qu'on a parfois des préjugés, et la meilleure manière parfois d'attaquer ces préjugés, c'est de créer une émotion chez la personne qui a des préjugés, et du coup, derrière cette émotion, lui faire passer une pensée. Donc je crois qu'il y a une... Stratégiquement, on doit autant se servir du raisonnement que de l'émotion. Hein? Voilà, pour moi, la vie intellectuelle, elle n'est pas dépourvue d'émotion. Je prends un exemple, certains de mes écrits, par exemple, un de mes textes qui est le plus lu, qui a eu des millions d'exemplaires dans le monde, c'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. C'est l'histoire de l'amitié d'un adolescent juif avec un épicier musulman. Donc c'est un texte sur la tolérance. Si j'avais écrit un pur essai de philosophie sur la tolérance, on l'aurait tiré à 500 exemplaires, il aurait été acheté par toutes les bibliothèques universitaires, et qui le lirait ? Des gens qui sont déjà tolérants. Parce que pour aller lire un essai philosophique sur la tolérance, c'est pas quelqu'un d'obtus et de fermé qui va lire ça, déjà. Donc, au fond, ça sert à rien. Tandis que quand vous écrivez une histoire, où vous allez créer une sympathie pour cet enfant, un amour pour ce vieil épicier, et vous allez emmener les gens dans une histoire, eh bien là, grâce à l'émotion, vous allez pouvoir déplacer les frontières intérieures et les préjugés des gens, et les amener dans un univers de tolérance où ils ne seraient pas allés sans l'histoire. Donc je crois beaucoup à la force philosophique des émotions.
Merci.
Quelle est l'origine de votre intérêt pour les religions ?
Au début, j'en avais aucun. Parce que moi, je suis né athée dans une famille athée. J'ai eu une éducation athée, une instruction athée. Quand je faisais mes études de philosophie à Normale Sup et à la Sorbonne, j'ai été élève d'un grand philosophe qui s'appelle Jacques Derrida, qui était athée. Et j'ai écrit mon doctorat sur Denis Diderot, le philosophe du XVIIIe siècle, qui était athée. Donc, plus athée que moi, vous ne trouviez pas. Et puis, il se trouve qu'un jour, j'ai vécu une expérience qui a tout changé. Quand j'avais 28 ans, je suis rentré dans le Sahara. Je faisais une grande marche avec 10 personnes dans le désert du Hoggar, cette partie montagneuse du Sahara. Et je me suis perdu. Je me suis perdu pendant une trentaine d'heures, sans rien à boire, sans rien à manger, en danger vital. Et là, au lieu d'avoir peur, j'ai eu infiniment confiance. Et j'ai passé une nuit sous les étoiles, qui était vraiment une nuit mystique. Voilà. Je l'ai raconté dans un de mes livres, qui s'appelle « La nuit de feu ». J'ai repris l'expression du philosophe Blaise Pascal, qui lui aussi était athée, et qui, en une nuit, a reçu la croyance. Et il avait employé cette expression « nuit de feu », et c'est exactement ce que j'ai vécu, « nuit de feu ». Et alors après, du coup, quand je suis rentré en France, j'ai eu un tout autre regard sur les grandes spiritualités, sur les grandes religions, beaucoup moins critique, puisque j'avais eu une porte d'accès, vous voyez, à travers mon expérience sous les étoiles dans le Sahara. Et donc, je me suis mis à lire les grands textes des religions et me rendre compte avec surprise que j'avais des frères et des sœurs partout sur Terre, à toutes les époques. Je retrouvais des échos de ce que j'avais vécu aussi bien dans la mystique orientale que dans la mystique hindoue, que dans la mystique juive, que dans la mystique chrétienne et musulmane, par exemple, pour le soufisme, etc. etc. Et donc ça a été une grande révélation et une façon d'entrer dans les religions, cette fois-ci avec intérêt, et puis après de distinguer dans les religions ce qui relève de l'expérience personnelle, intime, et puis après ce qui relève du credo, des idéologies, des institutions avec lesquelles là je serais très sévère.
Merci. Vous êtes-vous déjà senti déçu par la mise en scène d'une de vos pièces de théâtre ?
Oui. Oui. Souvent. Puis parfois, c'est encore mieux que ce que je pensais. Il m'est arrivé de me dire, mais je savais pas que j'avais écrit une aussi bonne pièce. Parce que le metteur en scène et les acteurs faisaient des choses extraordinaires. Et là, je dois dire quelque chose de politiquement incorrect aujourd'hui, depuis en tout cas 15 jours. C'est en Russie que j'ai vu mes plus belles mises en scène. Mais il faut distinguer la Russie et Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'en Russie, il y a des artistes qui souffrent en ce moment et qui vont encore plus souffrir. Il y a des artistes extraordinaires. C'est le pays du théâtre, la Russie. Et en Allemagne aussi, j'ai vu des choses extraordinaires. Et là, franchement, je me dis, oh là, je savais pas que j'avais écrit une aussi bonne pièce, quoi. Je suis rarement déçu par les acteurs, mais je suis souvent déçu par les metteurs en scène. Vous savez, en France, dans le milieu du théâtre, il y a une plaisanterie que les metteurs en scène détestent. On dit que entre nous, auteurs, on se dit toujours que les metteurs en scène, c'est comme les préservatifs. Avec, c'est bien, sans, c'est mieux.
Merci. Nous vous remercions de votre participation à cette émission de Web Radio. Ce fut un honneur de profiter de votre présence parmi nous. Nous avons hâte de lire d'autres œuvres de vous dans l'avenir.
Merci.
Yeah.